Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. C'est un grand voyage que nous vous proposons aujourd'hui. Nous irons par les ondes à Madagascar, à Genève, à Bruxelles, à Paris, à Montréal, mais aussi plus largement en Afrique avec un roman épatant. Notre premier invité est un auteur à succès corrosif, parfois controversé, mais qui a le mérite de proposer des récits authentiques et très honnêtes. Après avoir parlé de toute sa famille, il fait son autopsie. Bonjour Jean-Louis Fournier.
Bonjour Emmanuel.
Comment allez-vous Jean-Louis ?
Ça va.
Pas trop mort ?
Si. Mais c'est pas aussi désagréable que ça. Finalement.
D'être mort, oui, vous vous imaginez mort. Vous étiez quel type d'homme ?
Vous savez, on parle du repos éternel.
Oui. Et...
le repos éternel, c'est pas si mal que ça, c'est pas épouvantable.
Un mot pour vous définir.
Vorace, insatiable, bougon.
Il est déjà à moitié mort, il va falloir se redresser,
bougon,
hein, Jean-Louis. Allez,
bougon.
Bougon, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Bon, on verra ça tout à l'heure avec vous. Nous ferons un petit tour du monde francophone, je vous le disais, en collaboration avec l'OIF et organisé par TV5 Monde. Je vous expliquerai tout à l'heure. Nous parlerons culture et francophonie en Suisse avec l'écrivain Metin Arditi, à Madagascar avec l'animateur Sébastien Follin, en France avec le créateur et designer Jean-Charles de Castelbajac et au Canada avec le chanteur Julien Clerc. Et puis il sera question de la liberté, de l'amour et de la violence des rapports humains en Occident. Et si nous devions nous résigner à renoncer aux autres, à vivre à l'écart du monde. Le Belge Thomas Gunzig publie la plus belle surprise de cette rentrée littéraire.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et quatre libraires sont en multiplex, comme chaque semaine avec nous, pour représenter la Belgique. Il y a Déborah Damblon, libraire dans la librairie La Licorne. Bonjour Débo.
Bonjour Emmanuel.
Ça fait 10 ans qu'on se connaît, on peut se donner des petits noms. Débo, c'est joli, non ?
Oui.
Non ? On vous appelle
Manu,
Débo ou pas ?
D'accord.
Oui, Manu, ça va.
Ça dépend qui, on m'appelle plutôt Déby.
Déby, ok. Mathieu Colombe pour la France, c'est libraire à Aix-en-Provence dans la librairie Goulard, tatoué comme un Tahitien. Bonjour Mathieu.
Pardon, bonjour Emmanuel.
Ça va bien Mathieu ?
Très bien, merci.
Jérémy Laniel, sage et rebelle, est au Canada du côté de Montréal. Bonjour Jérémy.
Bonjour Emmanuel.
Allez-vous être méchant aujourd'hui ?
Absolument, je ne suis jamais méchant, je suis simplement juste.
Emmanuel. Oui, c'est vrai. Et enfin Claire Renaud se remet de sa participation à Morges en public il y a 2 semaines devant plus de 200 personnes. Sacrée émission pour la première de la saison. Bonjour Claire.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire dans la librairie Atmosphère à Genève. Vous vous êtes réécouté sur Internet ?
Oui.
Oui. Bon, pas emballé, mais si, vous étiez très bien. Bonjour Jean-Charles de Castelbajac.
Bonjour.
Posez-moi ce téléphone.
Ça y est, je suis en cours.
Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait des tweets, des Facebook.
Non, pas du tout.
Bon, vous êtes avec nous Jean-Charles, merci beaucoup pour le tour du monde de la francophonie qui se déroulera le 21 septembre. Vous avez créé tout un univers visuel avec des dessins que nous décrypterons ensemble tout à l'heure lors de ce voyage sonore. Mais on commence toujours par une histoire personnelle, une carte blanche. C'est votre tour Jean-Charles. Qu'avez-vous
Alors,
choisi de nous raconter?
C'est une histoire de dessin qui m'est arrivée il y a quelques jours. J'ai la mauvaise habitude de faire des dessins à la craie dans tout Paris,
oui,
et dans tous les lieux que je traverse. Depuis 20 ans, j'avais commencé ça, il y a 20 ans exactement.
Oui, vous m'aviez dessiné Canal Saint-Martin, je me souviens. On avait fait une balade.
Voilà. Donc on avait fait une balade. Oui.
C'est ça.
Là, en l'occurrence, je suis arrivé à gauche de l'Assemblée nationale, face à un mur, et il y avait écrit traverser. Il y avait écrit traverser parce qu'on devait traverser la rue. Donc, j'ai fait métaphoriquement, j'ai fait Calais et j'ai fait Paris. Donc, j'ai dessiné un bateau et j'ai commencé à dessiner un ange. Et ça n'a pas manqué, je ne savais pas du tout que j'avais oublié que j'étais face à l'Assemblée. J'ai vu une patrouille arriver en tenue de camouflage avec des gros pétards.
Ouais, ouais.
Et le capitaine, un peu étonné de mon allure, parce qu'aujourd'hui je suis très cool et tout, d'habitude j'avais un costume, une cravate, donc c'est ma tenue de camouflage en fait pour faire des graphes. Et j'entends un walkie-talkie, et le capitaine me dit « Vous n'avez pas vu celui qui a dessiné ça parce que on vient de repérer avec nos caméras, quelqu'un est intervenu et a dessiné ce graphe politique. » Et je dis « Non, j'ai vu un type partir là-bas et tout. »
En courant.
Et puis soudain, l'autre capitaine qui était donc au téléphone lui dit « Non, le type est parti. » Et la voix au bout du walkie-talkie dit « Bah non, il est face à toi le type. » Et donc j'ai dû sortir mes papiers. Ça a pris une dimension. Qu'avez-vous voulu dire par ce graphe, la traversée entre Calais et Paris ? écoutez,
vous avez fini au poste ou pas?
À votre âge, quand même, faut ranger vos craies. C'est amusant. Il y a pas de plaisir sans le danger.
Bon, hein. Ça s'est fini comment? Une amende?
Non, très gentiment, ils m'ont dit il faut effacer. Faut effacer. La craie a cet avantage d'être éphémère.
Très bien. Voilà. Jean-Charles de Castelbajac est dans la librairie francophone cette semaine. Et Jean-Louis Fournier aussi, pour Mon Autopsie, paru aux éditions Stock. Après avoir parlé toute votre vie, de votre famille, de la mort de votre épouse, du handicap de vos enfants, c'est votre tour d'y passer. Vous vous imaginez mort, c'est une forme de testament ou c'est une rédemption?
Non, c'est pas une forme de testament, c'est une... Si vous voulez, comme j'ai parlé de tout le monde, j'avais quelquefois des lecteurs qui me disaient « Mais pourquoi vous ne parlez jamais de vous ?» C'est-à-dire que je parlais de moi tout le temps, réalité. Et j'ai dit « Tiens, et puis je suis arrivé à un âge canonique où je connais des gens qui écrivent leur mémoire. » J'ai des amis qui écrivent leur mémoire. Alors, moi, le mot mémoire, quand même, j'oserais pas écrire mes mémoires parce que je suis pas Pascal et Montaigne. Ma pensée ne supporterait pas, je pense.
Vous faites une petite bio, quand même, une bio express.
C'est des souvenirs, si vous voulez. Oui. Je raconte un peu tout ce qui m'a plu dans ma vie, tout ce qui m'a déplu.
Oui, c'est ça. Et puis aussi, vous résumez votre carrière.
Mes expériences, c'est-à-dire les rencontres que j'ai faites. Par exemple, j'ai rencontré des proches. J'étais grand ami de plein de proches, et ça pour moi c'est très important.
Les documentaires à la télévision.
J'ai eu la chance de faire des documentaires d'art et de connaître des très grands peintres parce que je mettais les caméras devant leurs tableaux.
33 livres écrits, un prix Fémina. Oui. Le dessin animé La Noire Aude, mari de Sylvie Durepère.
Oui.
Vous avez touché l'épaule d'Elisabeth Taylor.
Oui.
Et vous avez eu une Bentley.
Oui.
De quoi êtes-vous le plus fier?
Peut-être d'avoir écrit 33 livres, parce que faut un certain courage, une certaine inconscience aussi d'en écrire autant.
Il est beaucoup question de votre caractère d'ailleurs. Vous vous autopsiez d'une certaine manière, et votre volonté de faire rire, prêt à tout pour un bon mot, absolument tout.
C'est une vraie maladie, c'est une vraie maladie ça, parce que j'ai l'impression que si je ne fais pas rire, je n'existe pas, je suis mort, je suis ennuyeux. J'accepterai qu'on dise de moi tout ce qu'on veut, que je suis moche, que je suis con, mais... Qu'on dise Fournier, il est vachement sympa comme type, mais il est ennuyeux.
Ouais.
Et pour moi, ça c'est pire que tout, parce que j'ai connu des gens ennuyeux. Mmh. C'est terrible.
Vous n'avez pas été fidèle aussi, hein. Vous avez trompé votre femme.
Ouais.
Car vous avez eu beaucoup de coups de foudre. Vous écrivez, mes plus grandes joies sur Terre auront été horizontales.
Ouais. Mmh. C'est vrai, puis j'ai passé mon enfance à supplier Dieu de ne pas me laisser succomber à la tentation. Ouais. Et finalement... il m'a pas exaucé. Et heureusement que j'ai eu des tentations, elles m'ont aidé à vivre, à garder la tête hors de l'eau, les tentations.
Y a-t-il un risque que vous n'alliez pas au paradis, du coup?
Ça, c'est pas un problème que je me pose tellement. J'ai eu quand même des démêlés avec Dieu. J'ai écrit son curriculum vitae, tout ça. C'était pas tout à fait très amical, parce qu'il m'a quand même, il m'a pas loupé. Il m'a envoyé quelques tuiles somptueuses.
Beaucoup, oui. Ouais. Il a gâché votre vie, Dieu, dites-vous. Avec vos enfants, notamment, handicapés, la perte de votre meilleur ami.
Gâché, c'est vache aussi, parce que j'ai eu des tas de moments formidables aussi. Faut pas non plus. Il est capable de tout, Dieu, le pire et le meilleur.
Mais il y a beaucoup de souffrance dans votre vie, Jean-Louis Fournier.
J'ai pas eu de bol, j'ai pas eu de chance, mais si vous voulez, j'ai eu la chance de transfigurer tout ça grâce au fait que j'écrive, que je fais des choses, de rire de mes malheurs. Je crois que j'ai un peu réussi de rire de mes malheurs. Non pas parce que je suis courageux, parce qu'au contraire, si j'étais courageux, je n'essaierais pas de rire, j'affronterais frontalement mes malheurs. Mais moi, j'ai pensé que la seule solution pour survivre, c'était garder la tête hors de l'eau. C'était de faire rire mes camarades et moi-même.
Vous écrivez « J'ai eu beaucoup envie de pleurer de mon vivant. Je n'ai pas réussi. Je gardais mes larmes à fleur de peau. J'avais peur, si je commençais à pleurer, de ne pouvoir m'arrêter, d'être débordé, de me retrouver dans un lac de larmes et de me noyer. »
Oui, j'ai une très peur de la sensibilité. La sensibilité est quelque chose qui me fait très peur, parce que où ça va s'arrêter. Et je me méfie de ma sensibilité, beaucoup.
Vous n'avez jamais pleuré?
En 12, dans le noir, au cinéma.
Tout seul?
Oui, je veux pas que ça se voit.
Ouais. Alors du coup, vous confiez aussi avoir toujours eu besoin des autres pour exister. Il y a un passage tout simple, mais que je trouve très émouvant. Page 92, Jean-Louis Fournier. C'est l'écrivain belge qui est juste en face de vous, Thomas Gunzig, qui va lire ce passage sur une musique que vous avez choisie comme étant la BO de votre roman, la bande originale du film en quelque sorte. Et c'est le roman, un extrait du roman de Jean-Louis Fournier.
Ma cosa, la luce piena di vertigine. Sguardo di donna che ti fulmina. Comedy, comedy, comedy. Ah,
J'ai toujours eu besoin des autres pour exister. J'avais des troubles de dépersonnalisation. Je me trouvais perdu en moi, dans un moi que je ne reconnaissais plus. Mon corps semblait ne plus m'appartenir. Ça durait très peu de temps. C'était une sensation épouvantablement désagréable. Je me souviens d'une crise à vélo dans la banlieue d'Arras. J'ai dû abandonner mon biclou au milieu de la route pour courir rejoindre un paysan qui travaillait dans son champ. Je lui ai demandé où était Arras. Il a fait une drôle de tête. On était à Arras. J'avais besoin de parler à quelqu'un.
Un extrait du livre de Jean-Louis Fournier, Mon autopsie, lu par Thomas Gunzi, que nous retrouverons tout à l'heure pour un roman exceptionnel, une vraie révélation à ne pas manquer. Vous ne serez pas déçus. Avec cette musique de Paolo Conte, comédie, Jean-Louis Fournier.
Mais je l'ai mise parce que comédie de la vie, comédia, comédie de la vie, puis j'aime beaucoup. Et puis surtout, c'est que des proches avaient pris cette musique pour... une émission de radio qui s'appelait Les Chroniques de la haine ordinaire. Et on entendait ça, il y a 25 ans. Et il adorait Paolo Conte. C'est lui qui m'avait fait connaître Paolo Conte.
Vous vous sentez perdu comme ça parfois, encore aujourd'hui? Vous avez besoin de parler à quelqu'un? Vous vous sentez seul?
Je suis pas toujours sûr d'exister. Vous avouerez que c'est les autres qui me prouvent que j'existe. Parce que quand on me regarde, je me dis, il regarde pas rien. J'ai envie de demander à tout le monde, dites-moi que j'existe. Ouais. Parce que je suis pas toujours sûr.
Alors, ce qui vous rassure, du coup, c'est votre petite notoriété, c'est le contact avec le public.
C'est mes petits succès. Quand dans la rue, il y a quelquefois des lecteurs qui me reconnaissent, ils se rendent pas compte le cadeau qu'ils me font, ils me disent, on vous dérange. Je dis, ah non, vous me dérangez pas. Vous démangeriez à ne pas me regarder, à faire semblant. Je suis pas là.
Bien. Place à nos libraires. Vous voulez bien? Qui sont à travers la francophonie, qui sont généralement gentils avec vous, on va voir.
Je m'expose.
On commence par le plus doux ou le plus rude, Jean-Louis?
Le plus dur.
Le plus dur? Jérémy Laniel, au Canada, sans hésitation. Allez-y, Jérémy.
Mais voilà, Emmanuel, pour la première fois, je peux faire mon coming out à la librairie francophone et je suis un fan fini de Jean-Louis Fournier. Ah. Par contre, je l'avoue, chaque nouveau livre que j'ouvre, c'est avec une crainte, hein, parce que j'ai toujours peur que ça s'épuise, qu'il y ait de la redite. J'aime tellement ça que j'ai peur de me remettre à risque à chaque fois que j'en commence un nouveau. Mais non, encore une fois, son style, son autodérision, son humour violent, eh bien, on retrouve tout ça dans Mon autopsie. Il y a là tout le génie qui fait de lui un écrivain jouissif.
Bien. Oula. La plus douce, Déborah Damblon, qu'est-ce que ça va donner?
Eh ben, t'es gentil, hein, comme toujours. Moi aussi, je suis une grande, grande, grande fan, Monsieur Fournier. Et comme Jérémy, chaque fois, je me demande, non pas si vous allez vous épuiser, mais où, jusqu'où vous êtes prêt à aller. Et puis, quand j'ouvre le livre et que je vois de quoi vous parlez, je me dis, non, c'est pas possible. Il va pas parler de ça. Et puis, comme c'est vous, eh ben, moi, je vous fais confiance. J'ai pas peur. Et puis, je plonge parce que je sais que vous serez juste et je sais que vous serez pertinent. Et puis, que vous serez doux parce que vous êtes doux. Et puis, je sais que vous allez me faire réfléchir et me faire rire et puis me faire pleurer. Eh bien, cette fois, ça n'a pas manqué. C'était encore la même chose. C'est ce qui s'est passé.
Mathieu Colombe, pas toujours sensible, mais là oui, je crois.
Et là oui, pour cette fois, effectivement, j'ai aimé rire avec vous, j'ai aimé aussi verser ma petite larme, j'ai aimé apprendre des choses sur vous. Encore une fois, vous avez signé un roman qui était particulièrement agréable à lire. Alors bon, évidemment, si nos auditeurs n'aiment pas l'humour noir et l'écriture à brin canaille, ça va pas vraiment le faire, mais sinon, si c'est votre truc, les enfants, allez-y, c'est tout bon, jetez-vous dessus, allez-y à pieds joints.
Allez-vous faire l'unanimité avec les Renault en Suisse?
Oui, bonjour Jean-Louis.
Bonjour.
J'ai trouvé votre idée très bonne. J'ai retrouvé avec plaisir votre sens de l'humour. Mais j'ai un aveu. Votre livre, il est un peu long pour moi. Trop de souvenirs s'entassent. Mais, au final, il est aussi tranchant que la lame qui vous dissèque.
Bien, à demi-teinte. Mais bon, c'est pas mal quand même, hein?
Mais il est long parce que je suis vieux, j'ai plein de souvenirs.
Il n'est pas si long que ça.
Si j'étais pas vieux, je serais plus
court. Non, mais franchement, il n'est pas si long. C'est vrai qu'il y a une grande sensibilité en vous, Jean-Louis Fournier, une grande fragilité, comme si vous étiez sur le fil. Je l'ai ressenti, moi, tout au long du livre. Par exemple, lorsque vous dites avoir horreur des gens qui partent. Après un rendez-vous, une soirée, une journée de travail, vous ressentez un sentiment d'abandon?
Mais tout le temps, par exemple, j'ai des voisins à Paris, par exemple, qui partent en vacances, et quand je vois leur volet fermé, j'en suis malade, et je leur en veux de partir en vacances. J'espère qu'ils vont avoir mauvais temps, qu'ils vont venir tôt, et tout ça.
Vous êtes rancunier, en plus.
J'ai horreur des gens qui partent.
C'est vrai.
Parce que j'ai toujours l'impression qu'on m'abandonne.
Ouais. Alors, je vais vous faire une confidence. Moi, je déteste les fins d'émission quand les auteurs partent. Ou quand on est en public et tout le public s'en va. Voilà, comme ça, d'un coup.
Ben oui. Ouais. J'ai besoin des autres.
Ouais.
Moi, l'enfer, ce serait qu'il n'y ait pas les autres. Ouais. Parce que les autres, je compte tellement sur eux. Je compte sur eux pour qu'ils me rendent heureux.
On va terminer avec une dernière confidence que vous faites, qu'on va dévoiler, qui concerne votre vie publique. Vous avouez que vous avez coupé les ailes de votre entourage parfois. Vous écrivez « C'était dur d'exister à côté de moi, je voulais être le seul à voler ». On vous a quitté pour ça ?
Ben, un petit peu, parce que j'ai toujours bien aimé être le premier, si vous voulez, tout le temps. Je voulais être le premier. Quand je faisais quelque chose, fallait toujours que je sois le premier. Parce que quand j'étais gosse, j'étais toujours le dernier. J'avais un frère, au contraire, qui était un surdoué, qui était toujours le premier. Donc j'ai souffert d'être le dernier. J'ai voulu être le premier. Enfin, maintenant, je me calme un petit peu, maintenant que je suis mort.
Oui, c'est vrai. Ouais. Vous ressusciterez ou pas ?
Écoutez,
c'est prévu, non ?
Ben, normalement, j'ai terminé mon bouquin le jour de Pâques.
Oui, c'est ça.
Je devrais ressusciter. Mais
dans pas très longtemps, ouais.
Je sais pas, non, parce que oui, je vais essayer de ressusciter pour écrire peut-être encore un bouquin pour venir vous voir.
D'accord. C'est pas le dernier, donc.
Oh, ben, j'espère que non.
D'accord. Très bien. Merci, Jean-Louis. Vous restez avec nous ?
Bien sûr.
Oui, ça va aller, vous allez voir. Vous n'êtes pas encore mort, tout va bien. Mon autopsie est parue aux éditions Stock. À suivre, un tour du monde de la francophonie avec Julien Clerc depuis le Canada, Metin Arditi en Suisse, Sébastien Follin à Madagascar et Jean-Charles de Castelbajac en plateau à Paris. Mais tout de suite, on part au Mali avec la chanteuse Mamani Keita et son tube Sinikane. Chanteuse malienne Mamani Keita avec Sinikane sur votre radio francophone.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS la première.
RTBF la première.
Ici Radio-Canada première.
France Inter.
Ce tour du monde de la francophonie, c'est le son du monde grand format de la semaine. TV5 Monde, avec l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie, lance un tour du monde en 25 heures, diffusé sur TV5 et auquel nous nous associons aujourd'hui. Top départ le 21 septembre à 13h, avec de nombreux journalistes, artistes et écrivains, et la participation de Jean-Charles de Castelbajac. Alors Jean-Charles, vous êtes à Paris, vous avez réalisé des dessins pour chacune des étapes, et pour Kinshasa, en RDC, vous avez représenté des sapeurs.
Oui, parce que j'ai représenté des sapeurs, parce que j'ai une affection particulière pour les sapeurs de Kinshasa, parce que mon ami Jean Deloisy m'a invité il y a 6 mois à une venue des sapeurs de Kinshasa à Paris. Et depuis très longtemps, depuis que j'ai dessiné les costumes d'un film qui s'appelait Un prince à New York avec Eddie Murphy, oui. Et des costumes très colorés, j'ai des grands fans en Afrique. Mmh. Ce que je ne savais pas, c'est qu'à Kinshasa, chez les sapeurs, j'étais considéré comme un dieu. Donc il y a des chansons, des incantations, il y a des prières à mon égard.
Prières.
Je crois qu'on est deux dieux d'ailleurs très différents, puisqu'il y a Yoji Yamamoto et moi. Ouais. Et à ma grande surprise, l'équipe du Palais de Tokyo m'a montré des films sur YouTube de tous ces sapeurs de Kinshasa qui incantaient comme ça. Castelbajac. Et j'ai eu le droit à un baptême. On a fait une performance ensemble, à une intronisation, et ils m'ont baptisé du plus beau titre, selon moi, qui est homme de couleur.
Ah, ouais.
Donc, pour les sapeurs de Kinshasa, je suis l'homme de couleur. Ouais. Donc, effectivement, Kinshasa, ça a été plus facile à dessiner que Mocktown, par exemple. Hein.
Mais vous avez dessiné un caribou pour Mocktown.
Bah, écoutez, c'est un peu facile. C'est Mocktown, vous comprenez, c'est 25 dessins. En fait, lorsque l'équipe de TV5, Yves Bigot, Agnès Benayer m'ont sollicité, je devais faire à l'origine que le logo. Et en bon situationniste que je suis, du logo, c'est devenu une sorte d'envahissement des écrans. Donc j'ai décidé de dessiner sur l'écran, en fait, à la manière de Clouseau dans le mystère Picasso.
Voilà, c'est quasiment un livre, hein, parce qu'on peut le voir, il y a un dossier de presse, mais il y a sur Internet, vous pouvez aller voir sur la page Le Tour du Monde de la Francophonie.
C'était effrayant parce que j'improvisais chaque dessin. On me disait Mocktown et je partais. Et ensuite on me disait Paris.
Je suis en train de faire la promo de votre travail, Jean-Charles. Donc on peut retrouver vos dessins.
Merci.
Et vos dessins, donc dessinés en situation avec des petits films sur le site internet.
Oui, c'est une dédicace que j'ai fait à chacun des pays de la francophonie. Et puis ensuite, il y a l'idée d'aller vers d'autres pays, de les découvrir et de faire se rencontrer les cultures.
Alors justement, de Paris, on part tout de suite à Montréal, au Canada, où se trouve en ce moment même une icône de la chanson francophone qui sera sur TV5 Monde à 13h, heure de Montréal, 19h en Suisse, France et Belgique, aux côtés de l'animateur André Robitaille. Bonjour Julien Clerc.
Bonjour.
Comment allez-vous Julien ?
Très bien.
On est ravis de vous retrouver dans cette émission. Merci d'être dans la librairie francophone pour évoquer votre participation à cet événement. Vous êtes en tournée en ce moment au Québec. Quel rapport entretenez-vous avec les Canadiens francophones, Julien ?
Un rapport d'amitié et d'émotion aussi, puisque je chantais 15 jours... au mois de juin, et là, à nouveau 3 semaines. Mmh. Donc, c'est une très longue tournée que font rarement des chanteurs français, d'ailleurs. Je vais dans des régions vraiment éloignées, comme là, tout à l'heure, où je pars en Abitibi, c'est-à-dire vers le nord de la province, vers la baie de James. Hein. Mmh. Les gens sont heureux, je crois, quand on vient les voir comme ça.
Mmh. Voilà. Alors, vous avez voyagé à travers le monde, Julien Clerc, dans tous les pays francophones. Vous vous souvenez d'une histoire où il y a quelque chose qui vous a marqué, vous, au cours de ces voyages, au cours de votre rapport à la francophonie ?
Le rapport à la francophonie, peut-être le truc, quand je réfléchis au passé, c'était déjà il y a plusieurs années déjà, je pense qu'il y a un concert qui m'avait énormément marqué, c'était au Cambodge. Parce que c'était après, évidemment, Pol Pot, le souvenir que j'ai de ce concert... avec un, je me souviens, le piano était pas d'une très 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 grande qualité. J'ai le souvenir d'une ferveur incroyable qui prouvait quand même que ce pays qui avait fait partie, si vous voulez, de l'Empire français, appelons-le comme ça, la langue française avait laissé des traces quand même. Parce
Il y avait
un monde fou et il y avait une ferveur incroyable dans ce pays qui avait été vraiment, qui avait souffert, quoi. C'est un des endroits qui m'a le plus touché, moi, Phnom Penh.
Mais c'est vrai que vous êtes très aimé dans les pays francophones, en grande partie grâce aux textes de vos chansons, Julien. On recevait Jean-Loup Dabadi cet été dans la librairie francophone estivale, qui nous parlait notamment de partir et de quel jeu elle joue. Et c'est vrai que ce sont des thèmes universels qui touchent chacun d'entre nous, où que l'on soit dans le monde. C'est ça la force de vos chansons.
Ça c'est le rôle de la chanson, ma foi. C'est de
traiter... Pas toutes.
À travers un prisme personnel, si vous voulez, de traiter des sujets universels. Alors, c'est le talent, ça, des auteurs. Moi, je n'écris pas mes paroles, mais j'ai eu la chance de m'entourer d'auteur toute ma vie, qui d'abord qui avait un vrai style en français, un style littéraire d'auteur de chansons, et j'ai été en recherche de ça toute ma vie, n'écrivant pas mes textes. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir mettre mes musiques sur les textes de gens qui écrivaient le français comme il faut.
Bon, merci beaucoup Julien Clerc. Vous sortez un nouvel album le 20 octobre prochain. Vous venez quand vous voulez pour en parler ici en plateau, pour rencontrer un grand écrivain comme nous l'avons fait avec Bernard Lavillier, Raphaël, Brigitte Fontaine, plein d'autres comme ça. Vous êtes ici chez vous.
Ah ben, c'est super gentil.
Voilà, merci beaucoup Julien. On vous laisse préparer vos concerts au Québec où vous êtes actuellement, je le rappelle, et on vous retrouve sur TV5 Monde le 21 septembre. Merci beaucoup Julien. On se quitte justement avec un extrait de votre nouvel album en avant-première.
Mon amour, je sais c'est un peu court, mais je n'ai plus que ces trois mots qui coulent de moi comme un flot. Mon amour, je sais c'est peu de choses, mais cette phrase me grise de son eau de rose. C'est comme ça, je t'aime, etc. La, 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 la.
Julien Clerc, je t'aime, etc. Donc un extrait de son nouvel album à venir. Jean-Charles de Castelbajac, pour représenter le Canada, vous avez fait donc trois dessins, trois étapes, Moncton, vous en parliez tout à l'heure, Vancouver et Montréal. Et pour Montréal, vous avez représenté des grandes tours avec une main au-dessus de l'une d'entre elles. Ouais. Et cette phrase, Montréal, je t'aime.
Oui, Montréal, je t'aime, parce que c'est ma première découverte du Nouveau Monde. J'avais 10 ans et ma marraine habitait à côté de Montréal. Donc je me suis retrouvé immergé dans un autre monde, enfin, c'était vraiment une découverte. Je me souviens des grandes couvertures blanches avec des rayures de couleurs primaires dont les trappeurs se servaient pour échanger des peaux de bêtes aux Indiens. J'ai vécu dans la forêt parce qu'on voulait faire de moi un homme, donc c'était une drôle de vie. Mais j'ai vraiment vécu au Canada quelque chose de bouleversant. Donc cette main, c'est la main de la force, de la découverte, quoi.
Vous connaissez bien la Suisse aussi?
Je connais moins la Suisse, je connais moins, je sais, me souviens plus ce que j'ai dessiné pour la Suisse.
J'ai pas trop compris le dessin de Genève, en fait, ce sont des jeunes filles habillées, version défilé de mode.
Ah, mais très bien,
ouais, ça, vous va.
Ça me va très bien, les jeunes filles, c'est universel.
Bon, ce n'est pas une jeune fille, mais un homme de lettres qui nous attend là-bas en Suisse, c'est Metin Arditi, qui est auteur du récent dictionnaire amoureux de la Suisse. Bonjour Metin Arditi.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez déjà fait un défilé de mode? Non.
Pas encore, on ne sait jamais. Restons ouverts.
Vous êtes un homme d'affaires d'origine turque, écrivain suisse, mélomane, très impliqué dans le monde culturel à Genève, mais aussi ailleurs. Cette francophonie est-elle le territoire du métissage pour vous, puisque la Suisse cohabite avec trois langues, par exemple?
Oui. En fait, ma relation avec la francophonie, elle remonte à mon enfance, c'est-à-dire à la Turquie. Et si vous voulez que je vous parle de mon rapport à la langue française, moi, je vous parlerai plutôt d'un mystère.
Ouais.
Par quel miracle ai-je appris cette langue? Je suis né dans une famille de la moyenne bourgeoisie stambouliote. À la maison, on entendait le turc, le grec, le ladino, c'est-à-dire l'ancien castillan mêlé de mots turcs, l'allemand. Mais la langue que nous parlions entre nous en famille, c'était le français. Aucun de mes parents n'avait fait d'études. Et à l'époque de ma petite enfance, probablement qu'aucun d'entre nous n'avait jamais mis les pieds en pays francophone. En Turquie, la France n'avait jamais été puissance mandataire ou puissance coloniale. Elle n'avait aucun poids économique. Et à la maison, nous parlions français. Et en plus, c'était pas seulement la langue, n'est-ce pas, qui comptait. C'était la culture. Le français, pour nous, c'était un ensemble de références auxquelles nous devions nous conformer pour être dans le vrai. Je dis le français, je devrais dire la France, car qu'il s'agisse de lecture, de chansons, d'histoire, la référence culturelle et morale, les valeurs dans ma famille, à Istanbul, c'était toujours la France.
Ah oui, étonnant. Et donc du coup, vous avez écrit en français ensuite, vous avez publié de grands romans chez de grands éditeurs, toujours en français. Vous pensez toujours en français aujourd'hui?
Ah oui, depuis toujours, en fait, depuis mon enfance, depuis Istanbul.
Très bien, merci beaucoup Métine Arditi pour ce passage amical dans la librairie francophone. On vous retrouve donc le 21 septembre à 15h, heure de Genève, sur TV5, aux côtés de Darius Rochebain et de Michel Cerruti, que l'on salue de la RTS. À bientôt Métine.
Au revoir Emmanuel.
Au revoir. Cap sur Madagascar à présent, où se trouve Sébastien Follin depuis Antananarive. Bonjour Sébastien.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes animateur sur France Télévisions et sur TV5 Monde. Vous êtes l'un des relais de ce tour du monde de la francophonie. Vous êtes d'origine malgache. Quelle est la place de la francophonie dans la culture malgache ?
Écoutez, elle est importante. Comme dans toutes les anciennes colonies françaises, il y a une forte présence de la culture francophone. Après, elle est extrêmement présente chez les anciens. C'est vrai que au fil du temps, il y a eu ce qu'on a appelé la malgachisation, donc peut-être un petit recul de la francophonie, mais elle est quand même présente. Après, il faut différencier les choses, c'est-à-dire qu'on est dans un pays qui est plus grand que la France, qui est immense, 15 à 20 millions d'habitants sur l'île, et surtout des zones au-delà des plateaux où se trouve la capitale, Tananarive, où vous vous retrouvez, que ce soit dans le nord, dans le sud, sur les zones côtières, avec des cultures et des traditions totalement différentes. Donc le français n'a pas la même présence. Après, le français est quand même très présent chez pas mal d'écrivains et il y a toute une jeunesse émergente. Je pense à Franco Clerc, que j'aurai par exemple sur mon plateau, qui est un dessinateur de bande dessinée. Il y a une jeune slameuse qui s'appelle Kayla, qui slame en malgache, qui slame en français également. En tout cas, tous les gens qui sont sur mon plateau sont des gens qui s'expriment en français.
Alors justement, quelle est l'ambiance à Antananarive sur le plan culturel? Est-ce une ville dynamique et francophile?
Oui, évidemment, c'est une ville qui foisonne. Après, il y a tout un aspect underground qui est plutôt porté par tout ce qui est street art, justement, hip-hop. Donc c'est intéressant, justement, de sortir de cet aspect folklorique. Voilà, c'est une île aussi qui, malgré sa situation économique, c'est un des pays les plus pauvres au monde, eh bien, a une vraie identité culturelle qui prend le dessus. Certains ont vécu en France et sont revenus. Je pense à Michel Rakotosson, qui est certainement l'une des plus grandes figures de la littérature malgache, qui a en plus un point de vue intéressant dans sa littérature, c'est qu'elle a quitté Madagascar pendant une vingtaine d'années avant d'y retourner. Donc, elle a un regard aussi sur ce pays. C'est toujours intéressant. On a toujours un regard différent de son pays et de sa propre identité quand on en est parti. Donc oui, il y a ceux qui s'expriment en français, mais j'insiste encore sur le fait que c'est un très grand pays et que le niveau d'alphabétisation en français n'est pas le même à Tananarive, qui est la capitale, et dans les zones rurales reculées, évidemment.
Bien sûr. Merci beaucoup, Sébastien Follin.
Merci à vous.
On vous retrouve vendredi 22 septembre à 11h, heure de Paris, midi à Antananarive, pour ce tour du monde de la francophonie. Pourquoi avez-vous dessiné la paix pour Antananarive, Jean-Charles de Castelbajac?
Écoutez, en fait, les dessins, c'est un peu de la fulgurance, c'est juste de l'intuition ou l'inspiration. Et j'ai toujours voulu aller à Antananarive, ouais. Et c'est toujours un lieu qui m'a fait rêver. Et j'y ai vu sans doute au travers de ces grands arbres monumentaux qu'il y a dans le pays. Comme un symbole de paix, de sérénité. Donc voilà, la paix est arrivée au creux de ma main.
Ouais. Bon, je rappelle que vous avez habillé de nombreux artistes, hein, toute votre carrière. Isabella Gianni, le personnage de Pearl Day dans Chapeau melon et bottes de cuir. Ouais. Farrah Fawcett pour Les drôles de dames. Ouais. Katy Perry, ouais. Beyoncé, Lady Gaga. Tous ces artistes-là, qu'est-ce qu'ils vous ont apporté? Pas toujours de la couleur d'ailleurs, hein. Souvent de la sobriété.
Non, mais souvent, ma passion, ça a été les rencontres, ouais, travailler avec les autres, hein. Ça a été des échanges. J'ai jamais vraiment habillé. J'ai essayé de donner des outils aux artistes, hein, donc de faire des collaborations avec Lady Gaga, mais dans d'autres circonstances, quand j'ai habillé Jean-Paul II pour les JMJ et que j'ai dessiné.
J'ai habillé Jean-Paul II.
Ça, oui, c'est... bah oui, j'ai habillé Jean-Paul II parce que
ça fait bizarre.
Mais non, ça fait pas bizarre du tout. C'était un vrai travail. Profond, sincère. J'avais proposé cette idée de l'arc-en-ciel qui était vraiment décalée et ça a été vraiment un très très grand moment qui est lié à l'espérance. Voilà.
Et d'explorer aussi, parce que vous publiez fin octobre un livre avec Michel Pastoureau, que l'on connaît, le spécialiste des couleurs.
Oui, bien sûr.
Vous publiez un livre avec lui?
Je publie un livre avec lui au Seuil et avec la BNF, qui était un objet très mystérieux qui a été retrouvé dans les sous-sols de l'Arsenal. C'est un livre édité en 1420 qui s'appelle Le Grand armorial de la Toison d'Or. Donc tout ça, c'est vraiment déjà vibrant et c'est comme si on parlait de quelque chose de totalement épique, c'est le cas. Et c'est d'une grande beauté et c'est surtout d'une grande modernité. C'est juste pour raconter comment l'histoire peut être un moteur pour le futur.
Merci beaucoup Jean-Charles de Castelbajac. Le tour du monde de la francophonie, ce sera donc le 21 septembre sur une idée d'Yves Bigot, 25 heures de direct diffusée sur TV5 Monde et sur internet bien sûr, sur la page Tour du monde de la francophonie, vous pourrez donc voir tous les dessins de Castelbajac. À tout à l'heure Jean-Charles, à suivre la chronique des libraires, coup de gueule et coup de cœur tous ensemble et le magnifique nouveau roman du Belge Thomas Gunzig. Nous verrons tout à l'heure Thomas, si les libraires sont d'accord avec moi, je m'emballe un peu. On écoute le nouveau titre, tout nouveau titre d'Étienne Dao, et on part dans l'univers formidable de Gunzig. Voici les flocons de l'été dans la librairie francophone.
Tout est blanc, tout givré, innocent, tout figé. C'est l'hiver, en été. Des blancs, défoncés, aveuglants, déchirés, c'est l'hiver, en été. La nuit blanche pourrait durer jusqu'à la fin. Sur le sable givré, sous les flocons de l'été, la nuit pourrait durer toute l'éternité. Blanc, étouffé, faux semblant, allongé, c'est l'hiver, en été. Tout est blanc, tout givré, survivant. C'est l'hiver en été. La nuit blanche pourrait durer toute l'éternité. Loin, si loin, à soi-même exilé.
Étienne Dao avec les flocons de l'été sur ICI Radio-Canada Première, RTBF la première de la RTS et sur France Inter. La chronique des libraires dans cette plus grande librairie du monde, tous ensemble, pour les coups de cœur et les coups de gueule, Jérémy Laniel est énervé à cause des 375 ans de Montréal en librairie. Qu'est-ce que vous allez encore nous sortir, Jérémy ?
Ben Emmanuel, je crois qu'il faut vraiment vivre sous une roche pour ne pas savoir que Montréal fête son 375e anniversaire cette année. Si on jette un coup d'œil là, vraiment tranquille sur les tablettes de nos librairies, bien on va trouver les gens à Montréal à l'époque de la Confédération, un livre, un herbier de Montréal, Paul à Montréal, Montréal noir, Promenade dans le passé de Montréal, Les filles du roi pionnières de Montréal, Portrait de Montréal, et la liste continue à n'en plus finir. Il ne s'agit, je vais être clair, il ne s'agit pas là de mauvais livres, mais vient un moment où trop c'est comme pas assez. Oui, en mais plein bon. Cœur de la rentrée littéraire, c'est exactement où nous en sommes.
Mais oui, mais bon, c'est normal. On a soutenu, nous aussi, les 375 ans et les 150 ans du Canada. C'est normal.
On les a tous soutenus, on peut leur lâcher.
Déborah Damblon, en Belgique, les beaux livres événements ne sont pas toujours désagréables.
Mais voilà, et il y a des tas de beaux livres dont moi je ne me plaindrai jamais. Ouais. C'est ceux sur Pierre Alechinski, notre fabuleux peintre et graveur national. Vous savez, il a 90 ans maintenant. Oula, et il est plus jeune que jamais. Voilà, vous voulez la preuve, Emmanuel? Eh bien, vous courez au musée de la gravure de la Louvière. Et puis, ne me dites pas que vous ne pouvez pas y aller, puisqu'il y a un catalogue.
Mais je
nous voilà aux beaux livres.
Mais voilà, allez, toujours les beaux livres avec les événements, très bien. On
voilà,
a fait le tour.
Achetez le catalogue de Palimpseste de Pierre Alechinski.
Mathieu Colomb, pour la France, un coup de gueule comme votre copain Jérémy Laniel.
Mais complètement. Et en fait, c'est un coup de gueule qui va se centrer sur un livre qui s'appelle Outrage de Marissa Rachel. Mais il se centre là-dessus parce qu'elle représente exactement une tendance qu'il y a au sein de ce qu'on peut appeler la littérature érotique, qui va jusqu'au pornographique. Mmh. Alors, ce qu'il y a de fantastique avec la littérature, dans l'absolu, c'est qu'on peut aller très très loin, on peut faire beaucoup de choses. Donc ça, c'est bien compris dans ce livre-là, par exemple, parce qu'on va vraiment très 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 loin, on n'est pas du tout dans l'érotisme. Et ça, c'est plutôt chouette. Mmh. Par contre, ce qu'il y a de bien dans la littérature, c'est que c'est de la littérature, c'est-à-dire que c'est écrit, on écrit correctement, on essaie de construire quelque chose, d'avoir un scénario, et ben là, c'est pas le cas. Ça ne marche absolument pas. Ce livre n'a été édité que parce qu'il y a de la fesse dedans. Et c'est l'exacte tendance de la littérature dite érotique. Et c'est un morceau de littérature qu'on est en train de s'aborder.
Bien sûr, sans jeu de mots, bien sûr, et autant aller sur Internet, quoi.
Exactement.
C'est ça que vous êtes en train de dire.
Complètement, complètement.
Claire Renaud est en Suisse. On ne citera pas le livre, du coup.
Je l'ai dit au début.
Oui, bon, c'est bon, ouais, on ne rappelle pas. Claire Renaud en Suisse, vous aimez porter, vous, des auteurs contemporains qui ont du mérite?
Oui. Moi, en fait, d'abord, je suis toujours choquée quand un auteur meurt du gros coup médiatique et commercial qu'on peut en tirer. Mmh. Vous savez, Emmanuel, l'effet rapace de certaines maisons d'édition. Alors, j'ai un auteur tout à fait vivant, contemporain, à vous présenter. C'est Mark Woltenhauer. Qui a tué Heidi? C'est un polar très bien construit avec plein de rebondissements, sans en faire trop. Dans un suspense haletant, l'auteur va nous mener de Berlin, où un politicien russe se fait assassiner, à Genève, en passant par nos belles Alpes vaudoises, où un serial killer sévit.
Qui a tué Heidi, c'est donc aux éditions Slatkin. Merci Claire.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Thomas Gunzig est dans la librairie cette semaine pour son nouveau roman La vie sauvage, aux éditions du Diable Vauvert. Il y a tout dans ce roman, Thomas, un portrait au vitriol de notre civilisation, l'incitation à la tolérance, l'ouverture sur les autres et le rejet de certains, la décadence de notre société de consommation, la liberté, la culture comme espoir, l'amour, la solitude, de l'humour, bref, tout. Alors, ça peut être un compliment
c'est-à-dire que c'est pas du tout un calcul, hein. J'ai un peu essayé de faire.
Alors là, c'est un compliment, hein, je vous le dis tout de suite. Charles, votre personnage arrive en Belgique. Il a été extrait de sa vie en Afrique grâce aux nouvelles technologies. On l'a repéré, on l'a retrouvé, on l'a exfiltré. Expliqué.
C'est-à-dire que c'était un petit bébé qui s'est retrouvé dans un accident d'avion. C'est le seul survivant. Et puis il a grandi en Afrique, il a été adopté par de sombres miliciens qui a priori sont pas très sympathiques, mais dont il y en a un quand même qui est un grand amateur de grande littérature et qui va l'élever comme un petit blanc selon lui. Et puis un beau jour, à la faveur ou à la défaveur de Google Street View, hein, cet outil par lequel on peut se promener un peu partout, on va retrouver un petit adolescent blanc courant parmi des petits noirs au fin fond de l'Afrique. On va se rendre compte par différents recoupements qui il est et on va le ramener contre sa volonté dans l'Europe du Nord, alors qu'il a laissé là-bas en Afrique celle qu'il aime. Donc il est très fâché.
Quand il arrive en Belgique, on imagine que c'est la Belgique, recueilli par son oncle qui a deux enfants, dont un garçon de son âge, Frédéric, il se trouve confronté à une réalité qu'il trouve plus violente encore que celle qu'il a connue en Afrique.
C'est-à-dire qu'il connaît notre monde extrêmement bien, mais de manière théorique. C'est un garçon qui a tout lu. Il a lu à la fois toute la grande littérature, la poésie. Il a aussi lu tous les magazines possibles et imaginables. Il a lu la psychanalyse. Il croit nous connaître, mais c'est encore pire que ce qu'il imaginait. Et ça va. Le renoncement de ces adultes, en fait, va le déprimer. Et l'avenir de ces deux adolescents, parmi lesquels il va se retrouver, va le déprimer aussi.
Alors, il se retrouve un peu avec Aurore, sa cousine, qui l'a compris, ça. Hein. Écoutez ce qu'elle dit, Aurore. C'est Jean-Charles de Castelbajac qui va lire un extrait de votre roman, Thomas Gunzig, sur une musique africaine.
Tu crois peut-être que tu es en famille.
Tu crois peut-être que les gens t'aiment ou qu'ici tu ne risques rien. Tu crois que les choses ont changé depuis que tu n'es plus là-bas ou que tu es à l'abri. Eh bien, je vais te dire, tu n'es pas à l'abri. Je ne sais pas vraiment comment c'était là-bas, en Afrique. Pour toi, c'était certainement dangereux. Mais ici, crois-moi, c'est pire. Ça se voit moins, mais c'est pire. C'est d'ailleurs parce que cela se voit moins que c'est pire.
Thomas Gonzig, une réaction.
Oui, quelle belle voix. Hein. Ah oui, j'aimerais la même.
Castelbajac, sur ouais, Ali voilà. Farka Touré en plus.
Voilà. Ah, oui, ça. J'étais gâté.
Il va élaborer une stratégie, votre personnage, pour pouvoir fuir. Ça va lui prendre un certain temps. Il séduit tout le monde et il déplore à la fois, par calcul, mais aussi par conviction, qu'en Occident, on ne touche pas assez l'autre pour le réconforter. On se contente des mots, mais les mots, ça ne suffit pas.
Non, c'est-à-dire que c'est un jeune homme qui est quand même chargé d'hormones et qui est baigné dans une certaine sensualité, en tout cas qui a soif de contact physique, mais qui va se servir un peu de ce charme un peu trouble qu'il exerce sur les femmes, pas forcément jeunes d'ailleurs, pour mener à bien son dessein. Mmh. C'est-à-dire comment faire pour rentrer au fin fond de l'Afrique quand on est mineur et qu'on n'a pas un euro devant soi. Mmh.
Donc il y a une vengeance, on va pas tout raconter.
C'est pas réellement une vengeance, c'est une manipulation.
Ouais, quand même. Je veux pas aller plus loin, sinon je dis tout, mais c'est une vengeance quand même, Thomas.
En tout cas, il n'y prend pas plaisir.
Oui, c'est ça. Vous y croyez, ça ? On ne se touche pas assez en Occident ? Vous croyez ? Parce qu'il y a beaucoup de passages là-dessus.
Ben, c'est vrai que j'aimerais qu'on me touche un peu plus, qu'on se touche tous un peu plus.
Mais, enfin, non, mais tout non, de mais suite, mais vous caricaturez là.
Non, c'est vrai. Je trouve que on arrive dans une société un peu pudibonde comme ça, où le sexe devient quelque chose de suspect, de flou. Enfin, ça devient quelque chose de compliqué. Alors que c'est tellement, enfin, on est tellement tous occupés à y penser tout le temps. Tellement merveilleux. Hein, je rejoins ce que Monsieur Fournier disait tout à l'heure. C'est quand même un des moteurs de la vie, quoi, l'amour et la sensualité. Et sexe. Alors pourquoi est-ce qu'il faut que ça soit quelque chose d'interdit, de compliqué ? On emballe les gens, on les cache.
Hein, mais on peut se toucher sans avoir de rapport sexuel, enfin, tout de suite, le sexe.
Mais enfin, quand on est un peu amoureux, on a tout de même envie.
On n'est pas forcément hâte d'être amoureux.
Ah oui, comme ça, oui. Enfin bon, serrer la pince des gens, je ne sais pas si c'est vraiment enrichissant.
Il y a 4 libraires hein, qui ont lu votre roman. Ouais. Vous êtes angoissé ?
Oui, toujours.
On commence par qui ? La Suisse, le Canada ou la France ? Qui vous préférez en premier ?
La Suisse, tiens.
La Suisse, allez, allons-y, Claire Renaud.
Alors, quel bel hommage à la littérature, monsieur Lunzig. Les citations sont magnifiques et je partage complètement la certitude de Charles, la littérature nous aide à vivre. Dans votre roman, il n'y a pas de bons sentiments non plus, pas de mythe du bon sauvage, et cela j'ai beaucoup apprécié, comme l'espoir qui se dessine à travers cette belle histoire d'amour. Pour terminer, votre écriture est fluide et votre fin est très, très... classe.
Très classe et beaucoup de citations car votre personnage a lu tout Baudelaire, tout Verlaine, des philosophes aussi, il est très érudit. Jérémy Laniel pour le Canada, êtes-vous d'accord ?
Mais moi c'est la première fois hein, de mon côté que je lisais Gonzig et je crois qu'il faut vraiment être sans humour pour ne pas prendre un malin plaisir à se perdre dans ce livre-là. Je sais pas pourquoi mais j'ai trouvé un petit quelque chose de Martin Page à certains égards, un humour grinçant mais sans condescendance, une écriture qui fait vraiment qui réussit à servir un propos qui reste hilarant sans être trop dérangeant puis qui tombe jamais dans le roman à thèse. Bref, pour moi ça a été une très très belle surprise que ce Gonzig.
Très belle surprise, effectivement, Thomas Gonzig, avec ces 3 femmes qui vont soutenir votre personnage à leur façon, sa tante, sa prof de français et la psychologue du lycée. Il les sent perdues, toutes les 3, ce qui va d'ailleurs faciliter ses approches et vous démontrer la solitude dans laquelle nous nous trouvons en Occident, malgré nos richesses et malgré le confort de nos logements. L'une d'elles dira « J'ai cru pendant longtemps que des relations de confiance pouvaient exister entre les gens, mais il y a toujours un moment où les masques tombent, où il y a une trahison, puis une déception. J'ai appris à me passer des autres. »
Je me rappelle pas du tout d'avoir écrit ça.
C'est vrai.
Ah oui, non, c'est vrai. Oui, bah c'est-à-dire que
peut-on se passer des autres ?
Non,
ça rejoint tout Jean-Louis Fournier tout à l'heure.
Mais c'est-à-dire que il faut quand même faire un peu le tri parce que la plupart des gens qu'on croise sont très moyennement bienveillants ou se fichent éperdument de votre destin. Même si moi j'aime bien quand même un peu un certain sens de l'amitié, voilà, de l'amour, de la confiance. Mais ce que ce pauvre Charles dans le roman va constater, c'est que justement ces valeurs là qu'il aime bien, auquel il apporte de l'importance, se perdent un petit peu chez les adultes. C'est des choses qu'il trouve plutôt chez les adolescents, chez les enfants.
Mais c'est le chacun pour soi pour les adultes. Et ça ouais, aussi, ouais. Vous l'écrivez. Hein. Vous dites que malgré nos entourages, on finit seul.
Ouais, c'est vrai, j'ai dit ça aussi.
Vous l'avez écrit ce livre, Thomas? Je vous sors les pages. Hein.
Non, non. Oui, non, mais c'est vrai que j'ai un petit côté un tout petit peu pessimiste, mais en fait, je
pessimiste ou réaliste?
Non, pessimiste. En fait, je méfie en fait de l'optimisme, de cette espèce d'obligation à l'optimisme et au bonheur et à la joie qu'on veut nous imposer à travers tous ces bouquins de développement personnel, ces bouquins où on va mieux, soi-disant, ces feel-good book, tout ça. Ouais. C'est des choses qui me mettent souvent très très fort en colère. J'ai l'impression que le pessimisme est quelque chose d'extrêmement libérateur, au contraire. Une fois qu'on a compris que ça allait très très mal finir, qu'est-ce qu'on peut aller bien et qu'est-ce qu'on peut se dire qu'en fait la vie est une belle aventure.
Vous allez finir avec Jean-Louis Fournier.
Peut-être, ça serait un plaisir.
Vous êtes d'accord, Jean-Louis, avec tout ça?
Oui, absolument.
Bah oui, tu parles.
Évidemment, je peux pas dire non.
Il y a une formidable histoire d'amour, en tout cas, une histoire d'amour en filigrane. Trouver l'amour de sa vie ne s'explique pas. Vous démontrez ça tout au long du livre. On le sait, on le ressent. Et quand on est séparé, retrouver cet amour est un objectif absolu.
C'est un objectif absolu et c'est un objectif par rapport auquel tout s'incline, en particulier la morale. C'est-à-dire que tout est permis pour pouvoir retrouver la personne qu'on aime. Parce que
c'est tout est permis, ça dépend.
Ah bah en tout cas, pendant la tête de Charles, tout est permis. C'est-à-dire qu'il va faire toutes les pires ignominies à contre-cœur, parce que c'est quelqu'un de profondément moral. C'est pas un personnage qui est immoral. Il se rend très bien compte que ce qu'il fait à ses pauvres femmes n'est pas terrible. Mais effectivement, l'objectif étant de retrouver celle qu'il aime, il le fait pourtant avec talent. Voilà.
Le mot de la fin, c'est toujours pour un libraire. Honneur à la Belgique cette semaine avec vous, Déborah Damblon.
Voilà, ben moi c'est pas la première fois que je lis un livre de Thomas Gunzig. Et vraiment quand je me lance dans la lecture, ben pas besoin de faire un brushing parce que je suis sûre qu'on va en sortir tout à fait décoiffé. Parce qu'il s'en passe toujours, toujours tellement de choses dans vos pages. À chaque paragraphe presque, il y a un rebondissement. Et moi ce que j'adore, c'est qu'on ne s'ennuie jamais. Même quand ils sont épais, ben il n'y a pas un mot inutile, pas une description en trop et pas une citation qui ne fait mouche.
Et pas de commentaires négatifs sur le roman de Thomas Gunzig.
Ah bien, ça fait plaisir.
Mais bah oui, c'est pas mal.
C'est la première fois que partir à Bruxelles.
Oui.
Non, est-ce que c'est émission, dans cette émission, non, si quelquefois il y a des gens qui n'aiment pas.
Oui, c'est ça.
Mais alors là maintenant, c'est bien, ils aiment bien tous.
Merci beaucoup Thomas Gunzig. La vie sauvage est parue aux éditions du Diable Vauvert. Si vous avez un coup de mou au moral en raison de la rentrée ou de l'été qui s'éloigne, lisez ce roman, il y a un gros cœur dessus, il va vous apaiser et sans doute vous faire du bien. Merci Thomas.
La librairie francophone. Emmanuel Guérade.
Avant de conclure, coup de pouce à une découverte musicale francophone. Voici la chanteuse française Freda avec un extrait du Gardien des Fleurs.
À l'ombre des fleurs et la tête chenue, il veille au fond des cœurs, le gardien. Sous les cerisiers, au printemps, il demeure le gardien des fleurs, le gardien des fleurs, le gardien des fleurs. Sous la brume légère, les pas des promeneurs, les restes de l'hiver, le retour des fleurs. Ombre passagère, on sait d'ici d'ailleurs qu'il est feuilleux les pleurs, le gardien des fleurs, le gardien des fleurs, le gardien.
Freda, le gardien des fleurs, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. À la réalisation, Henri-Marc Mutel en France, avec Sacha Tropp, Thierry Dupin à la prog musicale. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère en France, Martine Béguin-Felet et Annick Chouin en Suisse, René Mikils avec Valérie Elput en Belgique, Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. La semaine prochaine, nous serons avec Marc Duguin, entre autres. On vous réserve des surprises, comme d'habitude. Bonne semaine, bon week-end à vous.